Baptiste pour le différencier de l'apôtre Jean. Mais Jean ne fait pas ça dans son évangile. Il l'appelle simplement Jean parce qu'il ne se nomme jamais lui-même. Donc, quand on lit Jean dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste. Puis Jean fait une différence par rapport aux autres, c'est que l'apôtre Jean va mettre beaucoup d'emphase sur le témoignage de Jean-Baptiste, sur le témoignage que Jean-Baptiste a rendu au Seigneur Jésus. Donc ce matin, c'est ce qu'on va voir. On va voir le témoignage de Jean-Baptiste à l'agneau de Dieu. Donc, lisons à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Quoi donc? Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, c'est clair, on l'a lu plusieurs fois dans le passage. Ça commence d'ailleurs au verset 19, voici le témoignage. Ça finit au verset 34, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. C'est vraiment ce récit-là, le témoignage de Jean-Baptiste à propos du Seigneur Jésus. Maintenant, on vient à lui. On vient lui demander qui il est, puis pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, les Juifs de Jérusalem, qu'on voit dans le passage, sont poussés à envoyer une délégation pour demander à Jean qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Pourquoi est-ce qu'on se soucie maintenant de ce que Jean baptise dans le Jourdain? Bien, Marc, il mentionne dans son évangile que de tout le pays de la Judée et de tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui en parlant de Jean-Baptiste. Donc, il y a une foule qui converge pour aller voir Jean-Baptiste. Matthieu, il rend un témoignage similaire, il dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays d'environ du Jourdain se rendaient vers lui. » Donc, il y a toute cette foule qui se rend là vers Jean-Baptiste. Fait que c'est normal, c'est naturel qu'on se pose des questions, puis que surtout les dirigeants religieux veulent savoir « Mais c'est qui cette personne-là, puis pourquoi les gens se rendent vers lui? » Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils envoient de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Jean attire l'attention. On veut savoir qui il est. Dans le passage, c'est assez facile de diviser le passage, parce que du verset 19 à 28, bien, c'est l'humble témoignage d'un serviteur de Dieu. C'est Jean-Baptiste, qui est un humble serviteur, va rendre témoignage à propos du Seigneur Jésus. Dans les versets 29 à 34, c'est un véritable témoignage au Fils de Dieu. Donc, tout gravite autour de ce témoignage-là que Jean rend à propos du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le passage, puis comprendre aussi dans quel esprit Jean le fait, dans cet esprit-là de humilité. Donc, verset 19, ça commence dans le premier partie du passage, L'apôtre Jean nous introduit les Juifs. C'est ce qu'on lit au verset 19. Les Juifs, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, etc. C'est la première fois qu'on voit ce mot-là, les Juifs, dans l'Évangile de Jean. Puis ça prend une place importante. Les Juifs vont prendre une place très importante dans son Évangile. Et plus on lit l'Évangile, plus on voit qu'il y a un antagonisme qui va se faire entre les Juifs puis entre le Seigneur Jésus, hein, entre les deux. C'est qui ces Juifs-là? Bien, c'est l'autorité juive de Jérusalem. C'est le Sanhédrin, finalement, qui est composé de 71 membres. C'est eux qui gouvernaient la Judée dans les limites où est-ce que les Romains leur permettaient. C'était encore une genre de théocratie que c'était le Sanhédrin, ces hommes religieux-là qui gouvernaient la Judée dans les limites qui leur étaient imposées. C'est eux qui vont se réunir au chapitre 11 et au verset 47, on voit qu'ils se réunissent et qu'ils décident du sort du Seigneur Jésus. C'est eux qui vont décider qu'il faut le mettre à mort. Ils envoient une délégation. C'est qui? Qui compose cette délégation-là? Bien, il y a des pharisiens. On voit dans le verset 19. Les pharisiens, c'était les membres d'une secte juive qui observaient d'une manière rigoureuse la loi. C'était manifestement des légalistes. Ils appliquaient la loi à la lettre. Il y avait des sacrificateurs qui sont là aussi dans cette délégation-là. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. C'est eux qui officiaient dans le temple. C'est eux appliquaient la loi juive et qui appliquaient les choses qui devaient être faites dans le temple. Il y avait aussi des Lévites. Puis les Lévites, c'était eux qui étaient au service, hein. C'était un peu comme ceux qui étaient les serviteurs, qui servaient dans le temple, dans les choses manuelles. Donc, on a ces personnes-là qui viennent auprès de Jean-Baptiste pour s'informer de qui il est. Maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour se faire une image de qui est Jean-Baptiste. Puis pourquoi je dis que Jean-Baptiste rend un humble témoignage du Seigneur Jésus, puis que Jean-Baptiste est un humble serviteur. Bien, Jean-Baptiste, il vient d'une humble famille. Son père, Zacharie, puis sa mère, Élisabeth, étaient avancés en âge lorsque Jean-Baptiste est né. D'ailleurs, il n'aurait pas dû être parent parce qu'Élisabeth était stérile. Donc, il ne devait pas avoir d'enfant. Et Dieu a exaucé leur prière, puis Jean-Baptiste, dans un sens, est un miracle. Un peu comme on a aussi dans l'Ancien Testament à propos d'Abraham et Élisabeth. Zacharie, c'est un sacrificateur, puis il y avait de nombreux sacrificateurs en Israël. Il était de la classe d'Abia. Donc, on avait David, lorsqu'il a organisé le service dans le temple, a établi 24 classes de sacrificateurs. Donc, c'était deux par deux. Il venait deux fois par année faire le service dans le temple. Puis il y en avait 24 de ces personnes-là. Non, pas deux par deux, mais 24 sacrificateurs, 24 classes, puis il venait deux fois par année faire le service dans le temple. Naturellement, lorsqu'il y avait des fêtes spéciales, bien, il en venait plusieurs en même temps, mais il y avait au moins ces 24 classes de sacrificateurs-là qui venaient deux fois par année dans le temple, puis il y avait leur horaire de fête. Sa femme, c'était une fille d'Aaron, donc elle descendait du sacrificateur à Aaron. Ed Schenck qui a écrit un livre sur la vie du Seigneur Jésus, puis comment on vivait à cette époque-là du Seigneur Jésus, va nous dire qu'Élisabeth et Zacharie habitaient dans une petite ville dans les hauteurs au sud de Jérusalem. Donc, ils venaient d'un village. N'est pas de la ville de Jérusalem elle-même. D'ailleurs, les sacrificateurs, les 24 classes de sacrificateurs, ne vivaient pas tous à Jérusalem. La plupart vivaient ailleurs, puis venaient à Jérusalem pour faire leur service lorsqu'il venait leur tour. Rien n'indique qu'ils étaient de la haute société, mais ça nous est dit que tous les deux étaient juste devant Dieu. Luc nous dit ça dans son évangile. Donc, Jean a été élevé par des parents, de humbles parents, mais des parents pieux. Jean, il a vécu d'une manière humble. Luc nous écrit que l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, puis il demeurait dans les déserts. Donc, il n'y avait pas une riche demeure, puis lui a décidé qu'il vivait dans les déserts. Puis lorsqu'il demeurait dans les déserts, Luc nous dit aussi que la parole de Dieu lui fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, puis que c'est à ce moment-là qu'il a commencé son ministère, qu'il a débuté son ministère. Dans Matthieu et Marc, il nous mentionne comment il était vêtu. Il était vêtu de poils de chameau, de vêtements de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Puis ils nous disent aussi qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On trouve ça et dans Marc et dans Luc. Donc, il n'y avait pas de beaux habits. Et puis, il y avait un régime assez simple. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, ce midi, on va vouloir manger plus que des sauterelles et du miel sauvage, mais c'est de ça qu'il se nourrissait. D'ailleurs, le Seigneur, il va s'adresser à la foule, au sujet de Jean dans Luc 7, puis il va dire ceci. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. » Donc, le Seigneur va faire l'hommage de Jean, puis il va lui dire, en faisant cet hommage-là, il va démontrer, bien, vous n'êtes pas allé voir quelqu'un de riche et de majestueux, mais vous êtes allé voir un prophète. Et d'ailleurs, c'est le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est venu introduire, il est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus qui a été annoncé par les prophètes. Il est venu accomplir ce que les prophètes ont prophétisé. Mais je pense aussi que c'est le plus grand des prophètes parce qu'il a humblement accompli sa destinée, la destinée que Dieu lui avait donnée. Parce que Jean était vraiment destiné à être celui qui allait introduire le ministère du Seigneur Jésus. Jean est mort d'une manière aussi assez humble. Humble même jusqu'à la fin. Bon, on se rappelle l'histoire, la fille d'Hérodias danse, Hérode est tout émerveillé, et puis il lui demande, demande ce que tu veux, je vais te le donner, même si c'est la moitié de mon royaume. Puis sa femme Hérodias, qui d'ailleurs était mariée à son frère, donc elle n'aurait pas dû être avec Hérode, hein, parce qu'elle était déjà mariée avec le frère d'Hérode. Puis d'ailleurs, c'est la raison pourquoi Jean est en prison, parce qu'elle dénonçait ça. Il a dit à Hérode, tu ne devrais pas avoir la femme de ton frère. Donc, elle saisit l'occasion pour dire à sa fille, ben, demande la tête de Jean-Baptiste, on va en être débarrassé finalement. Puis c'est exactement ce que sa fille fait. Puis Hérode, quand même, pas gaieté de cœur, va faire ce que la fille d'Hérode, Hérodias, lui demande, puis va faire décapiter Jean. Et lorsque Jean est décapité, c'est écrit dans Matthieu 14 que les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Pas de cérémonie nationale, comme on a vu dernièrement pour un président qui est décédé, mais simplement ces disciples de Jean qui vont prendre son corps puis qui vont le mettre dans un sépulcre, sans autre cérémonie. Jean avait une humble opinion de lui-même. Lorsque le Seigneur Jésus va venir auprès de lui pour être baptisé, il va s'opposer en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Ça ne faisait pas de sens dans son esprit, puis on comprend pourquoi. Donc, l'humilité de Jean, c'est même ce qui transpire dans notre texte. Lorsqu'on lit ce passage-là qu'on a lu ensemble, on sent aussi toute l'humilité de Jean. Comment il était pleinement consacré à Dieu, puis comment il était pleinement consacré aussi à l'appel que Dieu lui avait fait. Et puis, il va faire ces choses-là en toute humilité. Donc, c'est vers ce genre-là que on va envoyer une délégation avec une mission tout à fait précise. On va demander aux gens, cette délégation-là qui vient auprès de Jean, faites-nous un rapport. Pourquoi, qui est cette personne-là, puis pourquoi est-ce que tout le monde vient auprès de lui, puis pourquoi est-ce qu'il baptise dans le Jourdain, dans un milieu désertique? Et puis c'est quand même assez étonnant que dans un milieu désertique, Jean réussit à avoir des foules qui vont venir auprès de lui. Donc cette délégation-là arrive auprès de Jean, puis lui demande naturellement, au verset 19, « Toi, qui es-tu? » On veut savoir qui tu es. Il faut comprendre aussi qu'à cette époque-là, on avait une anticipation que le Messie allait bientôt arriver. C'était fébrile. On attendait la venue du Messie. Donc, lorsqu'on pose la question, on a probablement à l'esprit cette idée-là de savoir est-ce que c'est vraiment le Messie qu'on attendait. On l'attendait d'autant plus parce qu'on croyait que le Messie allait nous débarrasser du joug des Romains. On croyait que ça allait être lui qui allait finalement mettre les Romains dehors, puis on allait revenir, puis être maître chez nous. Et c'était promis de la part de Dieu, donc on savait que ça allait venir. Naturellement, comme toute attente eschatologique, hein, ce qui concerne l'avenir, tout le monde avait un petit peu leur interprétation de ce qui allait arriver, puis on n'avait pas tous la même idée. Naturellement, il n'y a rien de nouveau, hein. Si on va avoir des belles discussions aujourd'hui, on a juste à parler d'eschatologie, puis on va avoir toutes sortes d'idées on a l'idée générale, mais on a toutes sortes d'idées que les gens proposent, parce que l'avenir, c'est l'avenir, puis on ne la connaît pas. Donc, les gens non plus, aussi, à cette époque-là, savaient que le Messie allait venir, mais on spéculait un peu sur les détails. Donc, il y a quand même des rumeurs, hein. Luc nous écrit dans son évangile au chapitre 3, « Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. » Donc, il y avait ces rumeurs-là à cette époque-là. Peut-être que là, le Messie est arrivé quand on voyait Jean-Baptiste. On se posait la question. Il faut comprendre que lorsque cette délégation-là arrive, ça fait quand même un certain temps que Jean exerce son ministère puis qu'on a eu l'occasion justement que les gens se prononcent puis que les gens se fassent une idée à propos de Jean-Baptiste. Donc, sa renommée s'était déjà pleinement répandue dans un contexte de non-réseaux sociaux. Hein? Donc, ça prenait un certain temps pour que les rumeurs, puis pour que les choses se propagent à cette époque-là. Jean, il ne va même pas répondre à la question qu'on lui pose. Puis, on va voir que Jean est préoccupé. Jean savait ces rumeurs-là, il savait ce qu'on disait à propos de lui, puis Jean est préoccupé à dissiper les rumeurs en ce qui le concerne. Au verset 20, c'est écrit « il déclara ». Donc, devant tous, il va faire une déclaration qu'il n'est pas le Messie. Il va dire aussi sans restriction, plus littéralement, sans le nier, hein, « je ne changerai pas d'avis ». À nouveau, il va le dire, il va le déclarer avec assurance « je ne suis pas le Christ ». Parce qu'on savait, Jean savait ce qu'on pensait de lui. Et, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien de plus difficile que d'arrêter des rumeurs. C'est extrêmement difficile d'arrêter une rumeur. Hein. Puis c'est pour ça que Jean, il va insister, hein, pour dire, pour déclarer sans restriction, puis affirmer qu'il n'était pas le Christ. Fait intéressant, lorsque Hérode va faire décapiter Jean, puis que lui-même entend parler de Jésus, lui aussi, il ne saura pas quoi penser, puis il va se poser des questions. Parce qu'il y a des rumeurs à propos du Seigneur Jésus, puis en Luc 9, c'est écrit, « Car les uns disaient que Jean, en parlant de Jean-Baptiste, était ressuscité des morts, d'autres qu'il y était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. » Donc, même après la mort de Jean-Baptiste, on se pose des questions, puis Hérode aussi se pose des questions. OK, Jean, tu n'es pas le Messie, tu nous l'as dit. Donc, ils poursuivent leur interrogation. Au verset 21, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Bon, la question est légitime parce que Malachie, le prophète, a écrit, on peut lire ça, Malachie 4, les versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc, dans leur anticipation de la venue du Messie, on anticipait aussi que Élie allait précéder, qu'il allait avoir un retour d'Élie. D'ailleurs, lorsque l'ange annonce à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qu'il va avoir un fils, écoutez ce qu'il lui dit, l'ange. Il lui dit que son fils ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse, de la justice, etc. Donc, même l'ange annonce que Jean-Baptiste va avoir son ministère avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'ailleurs, il y avait deux choses de commun entre Élie et Jean-Baptiste. La première chose, c'est qu'ils s'habillaient de la même manière. Vous avez juste à lire, je ne le lirai pas, là, mais 2 Rois 1:8, les deux s'habillaient simplement de peau. Et les deux ont eu le courage de dénoncer des individus face à leurs péchés et de prêcher la repentance à ces individus-là. Et savez, c'était quand même quelque chose d'assez audacieux que Jean-Baptiste a fait que de reprendre une personne comme Hérode. Et puis, il avait le même courage qu'Élie pour reprendre Hérode. Donc, bien que Jean affirme ne pas être Élie, c'est clair qu'il a exercé son ministère avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme l'ange l'avait prédit à Zacharie, son père. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va faire l'éloge de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, puis il va dire, « Et si vous voulez le comprendre, en parlant de qui est Jean-Baptiste, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Qui est l'Élie à venir. Lorsque les disciples posent une question au Seigneur Jésus, le Seigneur va répondre, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, en parlant de Jean-Baptiste, et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Comme beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, il faut comprendre souvent que les prophéties ont une double application. Donc, pour la prophétie de Malachie, elle s'est une première fois accomplie dans la personne de Jean-Baptiste, mais il y aura aussi à venir un autre Élie dans l'avenir. On voit que Jean ne se soucie pas de cette question-là, puis qu'il va y répondre assez simplement. Il va dire « Je ne le suis pas ». Parce qu'il ne veut pas que les regards soient sur lui. On va constater, puis on voit qu'il veut que les regards soient sur le Seigneur Jésus. Donc, on continue à l'interroger. Si tu n'es pas Élie, il lui demande « Mais es-tu le prophète? » Puis encore là, les Juifs attendaient un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis à Moïse. Dans Deutéronome 18:18, on lit ceci. Dieu parle, il leur dit, « Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant de Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dirai tout ce que je lui commanderai. » Donc, on attendait aussi un prophète. C'est pour ça qu'on pose la question. La réponse de Jean est courte et précise. Non. Je ne suis pas le prophète, non. Jusqu'à présent, Jean n'a pas donné beaucoup de détails pour être capable de faire un rapport sur ce qui il est. Hein. Fait que ça ne va pas bien pour les gens qui viennent s'informer parce que là, ils n'ont rien pour retourner puis faire un rapport. Donc, on n'est pas étonné qu'il demande tout simplement au verset 22, « Mais qui es-tu? » Qu'est-ce que tu dis, toi, de toi-même? Parce qu'il faut aller faire un rapport. Bien, dis-nous qui tu es. Puis au verset 23, Jean va dire « moi ». Puis moi, il me semble que j'aurais entendu le petit mot « moi », puis j'aurais dit « enfin, je vais savoir c'est qui qu'il est », parce que là, il dit « ben moi ». Mais il va dire « moi, je suis une voix ». Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, je suis juste une voix. Jean, il s'efface encore. Puis il va leur répondre, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Puis tous les évangiles vont citer ce passage-là d'Isaïe 40, verset 3, pour désigner le ministère de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste est venu? Quel était le but de sa venue? Mais il était venu annoncer, il était venu préparer la voie. Maintenant, il faut comprendre le contexte de la citation d'Isaïe pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que Jean-Baptiste faisait. Le contexte de la prophétie d'Isaïe, c'est que le peuple d'Israël est en exil. Il n'est plus chez lui. Là. Dieu a dû l'envoyer dans un autre pays, sous la domination d'un autre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la loi de Dieu, puis ils n'ont pas suivi Dieu. Donc, conséquence, puis il leur avait annoncé, « Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne me suivez pas, je vais vous exiler, je vais vous envoyer hors du pays. » Sous la domination d'un autre. Ça, c'est le contexte de Isaïe 40, verset 3, à l'époque qu'Isaïe parle. Le peuple est en exil à cause de sa désobéissance. Maintenant, Dieu demande à son prophète de dire des paroles de réconfort à son peuple. Isaïe 40, vous pourrez le lire vous-même, mais le premier verset, c'est ce qui est écrit. Puis de leur expliquer que son iniquité et sa servitude est finie, verset 2. Vous êtes arrivé au bout de votre exil. Là. Vous avez expié vos péchés. Votre servitude va bientôt finir. Puis qu'ils vont revenir chez eux. Puis dans les versets 3 et 4 d'Isaïe 40, on lit ceci. « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. » Donc, une lecture rapide, sans trop regarder le contexte, pourrait nous faire croire que ce que Isaïe est en train de prophétiser, c'est que on va préparer votre chemin à vous, Israël, pour que votre retour dans votre pays soit facile. On va abaisser les collines, on prépare la route, puis là, vous allez partir, puis retourner chez vous, puis vous allez avoir un chemin facile. Maintenant, Isaïe fait référence à une coutume qui était en vigueur chez les monarques orientaux de l'époque. Lorsque eux voulaient aller quelque part, bien, ils envoyaient devant eux des héros ou des gens chargés de enlever les obstacles, construire des routes, redresser les voies, puis les vallées tortueuses, puis aplanir les montagnes, pour préparer la visite de ce roi-là à l'endroit où il voulait aller. Bon, l'image, elle est saisissante ici, si on le voit comme ça. La route qui est faite par ces héros-là, par ces serviteurs-là, c'est pour que le roi ait un accès plus facile au peuple qui va voir. Donc ici, c'est l'image du retour de Dieu vers son peuple qui doit être préparé, et non du retour du peuple dans son pays. Donc, ce que Isaïe est en train de dire, c'est que le peuple doit avoir une meilleure disposition de cœur à leur retour d'exil que lorsqu'ils sont allés en exil. Il doit avoir un cœur disposé pour recevoir Dieu, qui les ramène chez eux. Donc, ils doivent être repentants, ils doivent faire un bon accueil de Dieu, ils doivent préparer le chemin pour la venue de Dieu. Et cette préparation-là, elle passe par un peuple repentant et bien disposé envers leur Dieu. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Il est venu préparer la venue du Messie auprès du peuple. C'est pour ça qu'il crie dans le désert, c'est pour ça qu'il prêche la repentance. Hein? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est en train de préparer le cœur du peuple à la venue du Messie. C'est pour ça qu'il va, dans sa prédication, il va dire des choses comme « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est pour ça qu'il prêche le baptême de repentance, puis qu'il baptisait ceux qui confessaient leurs péchés, pour qu'il y ait des cœurs disposés à recevoir le Messie qui allait venir, puis qu'il y avait des cœurs disposés à recevoir finalement leur Dieu qui s'incarnait dans la personne de son fils. Parmi ceux qui viennent, il y a des pharisiens, qu'est-ce qu'ils leur disent? J'ai sauté un petit peu. Donc, ils préparent cette voie-là. Ils préparent le chemin. C'est ce qu'il leur dit. C'est ce que il aurait dû comprendre ceux qui sont venus. Bon, maintenant, parmi ceux qui sont cette délégation-là qui viennent voir Jean, il y a des pharisiens, puis eux, là, ils se posent des questions aussi, puis ils ont leurs préoccupations. Donc, il va dire à Jean, au verset 24, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Premièrement, pourquoi baptises-tu? Puis, c'est assez étonnant parce que parmi les Juifs, on pratiquait le baptême, des prosélytes. Autrement dit, des non-Juifs qui se convertissaient à la religion juive, on les baptisait. Mais on ne baptisait jamais des Juifs. Puis là, Jean baptise des Juifs. Donc, pourquoi baptises-tu? C'est une question légitime. Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu le fais si tu n'as pas l'autorité parce que tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Sous quelle autorité est-ce que tu baptises? Puis là, on a déjà un premier signe de l'opposition qu'il va y avoir entre les Juifs et le Seigneur Jésus, tu sais, parce que là, on commence à remettre en question l'autorité que Jean a d'être prophète et puis de faire ce qu'il fait. Donc, on a déjà un antagonisme qui commence. Donc, Jean, il va dire, pourquoi vous me demandez pourquoi je baptise? Bien, il répond, pour aplanir le chemin du Seigneur, pour préparer sa venue, tout simplement. Sous quelle autorité que je le fais? Pour Jean, ce n'est pas important, l'autorité. Ce qui est important, c'est de préparer la venue du Seigneur. C'est exactement la raison pourquoi Dieu l'a appelé. Et ça a été la raison de son ministère. Donc, il continue à parler du Messie. Il va encore détourner les regards de lui, puis il va les faire tourner les regards vers le Seigneur Jésus. Au verset 26, c'est écrit, « Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. » Il est déjà là. Il est en train déjà de leur dire, « Le Messie est déjà là, il est au milieu de vous. » Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, qu'ils ne reconnaissent pas, puis qu'ils ne reconnaîtront jamais. Bien que vous sachiez qu'il vient, il attendait le Messie, vous l'attendez. Donc, il leur dit, il est déjà au milieu de vous, puis vous ne le connaissez pas, bien que vous l'attendiez. Et ce qui est intéressant du texte de Jean, c'est qu'à partir du verset 29, c'est écrit le lendemain, c'est lorsque Jean va présenter le Seigneur Jésus parce qu'il le voit arriver, eux vont être partis. Ils ne l'auront jamais vu. Ils n'ont pas resté assez longtemps pour le voir. Donc, dans la suite des versets, ça démontre l'humilité de Jean. Il va dire, « Je ne fais que baptiser d'eau pour préparer celui qui vient après moi. » Il avait déjà dit ça dans Jean 15. Hein? Jean avait déjà rendu ce témoignage-là, hein, que celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et c'est exactement ce qu'il va dire au verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, il était avant moi. Jean savait comment aussi se positionner, parce qu'il va dire au verset 27, « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Carson, dans son commentaire, il fait le commentaire suivant. Il dit, « Les paroles de Jean-Baptiste témoignent d'une extraordinaire humilité dans une société qui s'attendait à ce que le disciple fasse pour son maître, tout ce qu'un esclave aurait dû faire, sauf ôter ses souliers. » Fin de la citation. Donc, il fait même des choses qu'on ne faisait pas, hein, à l'époque, que les serviteurs ne faisaient pas. Puis il va dire, « Même moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses souliers. » Mais ça ne se faisait pas à cette époque-là. S'il y a un exemple que Jean-Baptiste nous donne, c'est vraiment l'humilité indispensable pour être au service de Dieu. L'humilité, ce n'est pas une vertu prônée dans notre société. On n'aime pas prôner la question d'humilité, mais finalement, l'humilité devrait être quelque chose qu'on rencontre parmi tous les enfants de Dieu, et particulièrement pour ceux qui servent. Donc, dans les versets qui suivent, l'humble serviteur de Dieu va rendre un véritable témoignage au Fils de Dieu dans les versets 29 à 34. C'est écrit au verset 29 le lendemain. Je vous fais remarquer qu'à partir du verset 19 jusqu'au début du chapitre 2, c'est une semaine qui se passe. Donc, les pharisiens qui viennent, c'est le jour 1. Le lendemain, c'est le jour 2. On l'a lu au verset 29. Au verset 35, on va lire encore le lendemain. Jour 3, au verset 42, on va lire le lendemain. Jour 4, puis au chapitre 2, verset 1, on va lire trois jours plus tard, c'est le jour 7. Donc, Jean raconte une semaine de ministère. Hein? Puis, c'est tout à fait dans l'esprit de Jean qui est un témoin des choses qu'il a vues. Puis là, il va prendre les choses qu'il a vues pendant une semaine pour raconter tout ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste, etc., jusqu'à temps que le Seigneur Jésus commence son ministère au chapitre 2. Maintenant, vous remarquez que Jean, le lendemain, vit le Seigneur Jésus venir à lui, donc il le voit de loin, puis il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On est assez familier avec le terme « agneau de Dieu », probablement plus pour nous qui avons été quand même un certain temps dans l'Église catholique, ça se disait à tous les dimanches. Mais j'aimerais vous faire remarquer que Jean utilise le terme « agneau de Dieu » dans son évangile seulement deux fois. Puis c'est dans les textes qu'on lit ce matin, puis jamais plus dans l'Évangile. Naturellement, lorsqu'on lit l'Apocalypse, là, on va lire plus souvent le terme « agneau de Dieu ». Et que dans le restant du Nouveau Testament, seulement Pierre utilise le terme « agneau de Dieu » une fois dans sa première épître. Donc, trois mentions d'agneau de Dieu dans tout le Nouveau Testament, si on exclut l'Apocalypse. Maintenant, pourquoi Jean utilise cette expression-là pour rendre témoignage au Seigneur Jésus? Eh bien, je vais vous donner trois raisons, puis c'est quand même intéressant, on va faire de belles conclusions, puis j'espère que ça va nous encourager. La première raison, c'est probablement, il fait référence à l'agneau qui a été mis à mort en Exode 12. On se rappelle que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et puis Dieu a fait 10 plaies auprès du peuple d'Égypte pour inciter les Égyptiens à laisser aller son peuple, le servir dans le désert. Et la dernière de ces plaies-là, c'est la mort des premiers-nés. Et pour que les Juifs soient exemptés, que leur premier-né soit mis à mort, Moïse leur a dit, vous devez prendre un agneau ou un chevreau sans défaut. Et puis l'immoler, puis prendre le sang, puis le mettre sur le linteau des portes, et sur les montants, et sur le linteau. Lorsque l'ange va passer pour mettre à mort les premiers-nés dans votre maison, dans votre famille, vont être épargnés. Donc, on devait immoler un agneau par famille. Et ça, c'était pour préserver les Hébreux de cette mort-là des premiers-nés. Paul va écrire aux Corinthiens que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, même Paul en fait référence en parlant du Seigneur Jésus, que Seigneur Jésus, c'est notre Pâque, donc c'est l'agneau pascal, même s'il n'utilise pas le mot agneau-là, mais il fait référence à ça. Pierre nous rappelle dans son épître que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche. C'est la référence que je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça fait référence à cet agneau-là d'Exode 12. Jean va avoir aussi à l'esprit les agneaux d'un an, sans défaut et sans tâche, qu'on sacrifiait dans le temple comme sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. On lit ça dans Nombre 28 et 29. Chaque jour, dans le temple, on sacrifiait un agneau le matin et un agneau le soir. Le sabbat, on sacrifiait deux agneaux le matin et deux agneaux le soir. Au début de chaque mois, on sacrifiait sept agneaux, puis il y avait d'autres animaux aussi qu'on sacrifiait. Et on sacrifiait aussi des agneaux pendant les diverses fêtes qu'Israël avait dans leur calendrier. Maintenant, j'ai fait un calcul sommaire, vite, de combien d'agneaux on pouvait sacrifier dans une année en Israël. Et selon mon calcul, on sacrifiait un peu plus que 1200 agneaux par année dans le temple. C'était beaucoup d'agneaux. Donc, Jean va utiliser le terme « l'agneau de Dieu » pour insister sur le fait que le Seigneur Jésus est cet agneau-là sans défaut et sans tâche, surtout sur l'idée que les agneaux devaient être sans défaut et sans tâche et que le Seigneur a été cet agneau-là de Dieu sans défaut et sans tâche. Et d'ailleurs, sa vie a démontré qu'il était sans défaut et sans tâche. Et son sacrifice a été comme une agréable odeur à Dieu, comme les agneaux qu'on sacrifiait chaque jour dans le temple, pour que Dieu soit propice vis-à-vis les pécheurs. Et d'ailleurs, lorsque je me suis dit, c'est un peu ce que Jean est en train de dire. Il est en train de dire, écoutez, lisez mon évangile, puis vous allez voir cet agneau-là, sans défaut et sans tâche, je vous le présente tout au long de mon évangile. Jean devait aussi avoir à l'esprit, troisièmement, Isaïe 53, dans le verset 7, on lit, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Et c'est comme ça que Pierre va le décrire dans sa deuxième épître, à partir du verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui... injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qui s'en remettait à celui qui est juste juge, ou qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, en son corps, sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est exactement Isaïe 53, 7. Donc, toute sa vie, et surtout lorsqu'il a été mis à mort, le Seigneur Jésus a eu cette attitude-là de douceur et de résignation face à ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir sur la croix. Jean-Baptiste précise que l'agneau de Dieu est celui qui ôte le péché du monde. Maintenant, il faut faire attention. Jean n'est pas en train ici d'enseigner un salut universel. Mais il est en train d'enseigner le fait que le Seigneur Jésus va mourir pour tous les êtres humains sans distinction. Autrement dit, ce n'est plus seulement pour les Juifs, mais pour tous les hommes. C'est pour ça qu'il dit ici les péchés du monde par rapport au peuple élu de Dieu. Jean va poursuivre par des déclarations au sujet de sa relation avec l'agneau de Dieu, verset 30, « Bien que je suis venu préparer sa venue, et le voici, il me précède, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il était avant moi. » Dans le verset 14 du chapitre 1, c'est écrit qu'il est le Fils unique venu du Père. Donc, le Seigneur Jésus est de toute éternité. C'est normal qu'il soit avant Jean. Je ne le connaissais pas. C'est assez étonnant parce que c'est son cousin. Le Seigneur Jésus, c'est son cousin. Mais il vivait à Nazareth. Peut-être que Jean ne l'avait jamais vu physiquement, bien que sa mère doit lui en avoir parlé. Il le répète au verset 33, hein, « Je ne le connaissais pas. » Et ici, il faut comprendre qu'il ne le connaissait pas comme celui qui devait préparer le chemin d'eux. Il ne savait pas avant, même s'il connaissait son cousin, il ne savait pas que c'était le Messie pour lequel il allait venir préparer le chemin. Ça, c'est certainement clair. La suite du verset 33, c'est écrit, « Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. » Et c'est le témoignage qui rend au verset 32, hein, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Donc, avant ces événements-là, le Seigneur Jean-Baptiste avait déjà baptisé le Seigneur Jésus un certain temps avant, on ne sait pas combien de temps, mais il avait vu, lorsque le Seigneur Jésus était baptisé, cette colombe-là descendre sur lui et s'arrêter sur lui. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 3,16. Hein? « Dès que Jésus était baptisé, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Ça, c'est intéressant aussi parce que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait son esprit à des individus pour des occasions particulières, mais l'esprit restait jamais sur les personnes dans l'Ancien Testament. Nous avons le privilège d'être le temple du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit est toujours avec nous, mais ce n'était pas de cette manière-là que Dieu opérait dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, en ce qui concerne le Seigneur Jésus, c'est écrit qui est venu sur lui, puis que l'Esprit Saint est demeuré avec lui tout au long de son ministère. Et Jean va dire, l'apôtre Jean va dire plus tard dans le chapitre 3 que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Hein? Et l'Église, au début de l'Église, on prêchait avec justesse que Dieu a oint du Saint-Esprit de fort Jésus de Nazareth. Lorsque les chrétiens, les premiers chrétiens qui n'avaient pas toute la Bible, lisaient leur Bible, l'Ancien Testament, dans Isaïe 11, ils lisaient des choses comme ceci. 11, chapitre 1, verset 11, les versets 1 et 2. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Ça, c'est le père de David, qui est dans la lignée du Messie. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Car au Isaïe 42:1, c'est écrit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Encore 61, verset 1 d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Jean va dire, « Moi, je baptise d'eau. » Mais au verset 31, il va dire, « Je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël, en parlant du Messie. » Mais lui, au verset 30, la fin du verset 33, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Celui que j'annonce. C'est exactement ce que Ézéchiel nous dit dans sa prophétie au chapitre 36, à partir du verset 26, on lit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, ça c'est la nouvelle naissance, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. » Ça, c'est ce que le baptême que le Seigneur Jésus fait, ce que Jean-Baptiste annonce aussi. Pourquoi cet esprit-là est en nous? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et mettez en pratique mes lois. Le Saint-Esprit est là pour qu'on soit capable de marcher en toute obéissance au Seigneur Jésus. Naturellement, le Saint-Esprit n'est pas un sujet qu'on parle beaucoup dans nos milieux. Mais lorsque j'ai lu ces passages-là, je me suis posé la question, comment pouvons-nous prétendre vivre notre vie chrétienne sans l'assistance du Saint-Esprit quand le Seigneur a exercé son ministère avec la puissance du Saint-Esprit? Même le Seigneur Jésus a eu besoin de la puissance du Saint-Esprit pour exercer son ministère. Comment est-ce que je peux prétendre vivre ma vie chrétienne sans me reposer sur le Saint-Esprit qui habite en moi? Puis Jean termine de la même manière qu'a commencé. Je vous l'ai fait remarquer au début, verset 19, voici le témoignage de Jean. Verset 34, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Puis ça nous rappelle la raison pourquoi Jean écrit son évangile. Je vais vous le répéter souvent, j'espère, mais il faut vraiment prendre conscience que Jean nous dit, en Jean 20, qu'il écrit ces choses ou que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. Et c'est exactement le même témoignage que Jean-Baptiste a eu. Maintenant, en conclusion, rapidement, parce que là, je vois que j'aurais dû parler un petit peu plus vite ou couper des choses, là, mais deux choses j'aimerais dire, c'est que le témoignage de Jean-Baptiste, il est extrêmement important. Il est venu annoncer ou préparer le chemin de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est le cœur de l'Évangile, que nos péchés sont pardonnés, qu'on est de nouveau, qu'on est maintenant un enfant de Dieu parce qu'il y a eu cet agneau-là de Dieu parfait, sans tâche, qui a porté sur lui nos péchés pour que maintenant on soit justice de Dieu ou qu'on soit vu devant Dieu comme juste. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de l'exemple que Jean nous donne d'un ministère humble. Et même de se rappeler que dans la majorité du temps, dans son ministère, le Seigneur Jésus a exercé son ministère aussi avec douceur et humilité. Puis c'est d'ailleurs ce qu'il va dire de lui-même en Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Luc 6, 40 va nous dire, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsqu'on lit puis qu'on médite sur la personne du Seigneur Jésus, c'est notre exemple. On doit aspirer à être comme notre maître. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour ce qu'elle enseigne. Merci pour le témoignage de Jean-Baptiste, tellement important. Merci de ce qu'il est venu accomplir ce ministère-là avec toute humilité. Court ministère, à peine quelques années, mais important ministère. Merci de son exemple, que ça puisse nous inspirer, que merci de ce qu'il a été le reflet de celui qui est venu annoncer le Seigneur Jésus, qui a exercé son ministère aussi avec toute humilité. Mais par-dessus tout, merci pour cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci de ce qu'il a pris notre sacrifice, notre péché plutôt, en sacrifice qu'il s'est donné pour nous. On est vraiment reconnaissant et on veut te dire merci. Amen.